Savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Savoir plus. On commence avec un premier sujet, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin a fait sa rentrée en présentant les grands chantiers à venir, mais aussi en faisant le bilan des aides attribuées aux entreprises du fait de la crise sanitaire. Sylvain Robert, le président de la CAL, qui a été réélu, revient tout d'abord sur les dispositifs de la CAL pour relancer l'économie sur le territoire.
Alors nous, sur l'agglo, on a nous-mêmes donc pris quelques dispositions déjà pendant la crise pour accompagner les entreprises avec à la fois des avances remboursables, des reports de loyers, mais en même temps des subventions sur les hôtels et restaurants et cafés qui ont démarré encore un peu plus tard. Donc on a accompagné ça. On a aussi remis en place notre commande publique au moment où les entreprises pouvaient travailler pour pouvoir amorcer aussi amorcer la pompe et pouvoir accompagner le monde économique parce que c'est un ensemble. Comme on a regardé aussi pour l'ensemble de nos délais de paiement, pouvoir minimiser là aussi les délais de versement aux entreprises pour agir sur leur trésorerie parce qu'on sait très bien que c'est une période difficile et donc dans l'ensemble des pans de l'activité économique il fallait qu'on puisse au moins regarder comment on pouvait agir en mobilisant nos budgets, en regardant les masques qu'on n'avait pas distribués sur certaines politiques pour les réaffecter à l'accompagnement économique du territoire parce que c'est un investissement sur l'avenir quand on accompagne les entreprises de notre territoire.
Y a-t-il des grands projets permettant d'amplifier cette relance économique? Sylvain Robert nous répond.
Alors on a des entreprises qui viennent de confirmer comme Amazon avec 280 emplois qui vont se créer sur Avion. On a aussi une ambition qu'on porte aujourd'hui avec l'agglo pour transformer et identifier notre agglomération, notre territoire à mission sur la transition écologique, donc donner un signe aux entreprises que le meilleur territoire pour leur développement, si elles partagent cette philosophie, c'est ici. On leur demande de nous accompagner à écrire cette feuille de route pour dire de justement aussi parler de monde économique à monde économique et que les entreprises du territoire puissent être les meilleurs vecteurs de quelque part de promotion de notre agglomération. Et puis derrière, on a aussi candidat à des enjeux majeurs de structurants de notre territoire. Par exemple, il y a un appel à manifestation d'intérêt sur une délocalisation d'une partie de la Bibliothèque nationale de France auquel on a répondu au niveau de l'agglomération. Parce que là aussi, ça contribue, en complément de notre candidature à la capitale européenne de la culture, à caractériser notre territoire et de dire que la culture est aussi un levier de développement économique. On l'a vu avec le Louvre-Lens, depuis son implantation et son arrivée, les dispositifs qui se sont développés notamment en matière touristique. On le voit avec les réserves du Louvre depuis l'année dernière. Donc on continue à jouer cette carte culturelle, d'excellence culturelle, en continuant et en étant candidat à cet accueil, cette implantation de la Bibliothèque nationale de France.
Y aura-t-il un accompagnement des communes les plus touchées par la crise du coronavirus? Réponse de Sylvain Robert.
L'accompagnement des communes, on va aussi, les faire évoluer parce que là, au niveau de l'agglomération, on voit très bien qu'on accompagne les entreprises dans leurs communes. Donc c'est ça aussi, c'est comment on permet à chacun de pouvoir être concerné par le plan de l'agglomération, parce que c'est ça aussi, c'est à la fois des moments le dernier commerce d'un petit village qu'il faut peut-être accompagner, parce que c'est aussi la vie sociale dans ce village, et puis derrière les entreprises ou les commerces dans des centres-villes plus traditionnels, où là aussi les difficultés font que l'évolution des pratiques a peut-être eu des occasions de jouer sur leur chiffre d'affaires. Donc c'est l'ensemble de ce plan que l'agglo peut intervenir. Après l'action même des communes, on regarde dans nos politique, comment on peut là aussi être un acteur et en partenariat avec les communes, mais également avec le département et la région qui ont aussi leur part à jouer, qui ont joué leur part dans ces derniers mois et ces dernières semaines.
Sylvain Robert qui nous indique que la crise du coronavirus n'a pas empêché l'accompagnement par la CAL des structures sportives et culturelles.
Alors justement, là, dans cette première partie, toutes les associations qui avaient des subventions traditionnelles de l'agglomération, on a confirmé ces montants et on a, voulu amplifier, en tout cas le mouvement, en versant rapidement ces subventions. Là où on avait des manifestations qui n'ont pas pu se dérouler, mais qui ont été reportées, on regarde s'il y a déjà des frais qui sont engagés pour accompagner, parce que là aussi, c'est comment on accompagne ce tissu sportif, indirectement économique, comme culturel. On voit très bien que ce sont des activités qui ont souffert et qui commencent seulement à reprendre là avec la nouvelle saison. Donc on a maintenu nos subventions, on accompagne, on regarde justement sur des actions peut-être plus emblématiques. On a la route du Louvre ce week-end, on a maintenu notre participation à la route du Louvre, même si la jauge était diminuée, même si l'ambition n'était pas la même. En tout cas, en termes de notoriété, en termes de volonté de rebond du territoire, de résilience du territoire, c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire et donc on a voulu maintenir aussi notre accompagnement.
Sylvain Robert revient également sur les aides qui ont été accordées aux entreprises en difficulté pendant la crise du coronavirus.
Alors, on n'a pas consommé l'ensemble de l'enveloppe qui était proposée, en tout cas qui était envisagée pour pouvoir accompagner. Ça peut être aussi un bon signe. En même temps, c'est peut-être par rapport aux modalités d'accompagnement, c'est aussi à parfaire. Mais on a regardé justement dans le cadre du complément de ce que faisait la région, parce que là aussi, c'est un partenariat concret qu'on a pu monter avec la région sur l'amplification et l'accompagnement des entreprises sur une durée maintenant un peu plus longue. On était sur une première réaction au moment où tout le monde découvrait le confinement, tout le monde découvrait ses premières conséquences. Là, on est dans une phase où l'activité reprend, peut-être pas forcément au rythme qu'elle avait avant la première crise économique et liée à cette crise sanitaire. Et donc, on regarde justement comment peut-être réajuster nos dispositifs avec cette enveloppe. Encore une fois, c'est de l'investissement local. Quand on aide une entreprise, quand on regarde comment on peut l'accompagner pour garder cette activité, garder ses emplois, c'est de l'investissement pour notre territoire pour demain. Donc, on espère là aussi beaucoup de cette évolution, de ce plan de relance national, mais nous, on jouera notre part comme on l'a joué pendant cette première période de crise.
Les attentes de Sylvain Robert par rapport au plan de relance gouvernemental, ce plan a été annoncé, vous le savez, la semaine dernière. À l'heure où nous avions enregistré cette interview, on n'en connaissait pas encore les contours, mais voici quelles étaient les attentes du président de la CAL.
On attend surtout d'avoir des réponses concrètes sur notre territoire. On parle d'accompagnement à la relocalisation. Ça va se traduire comment? Est-ce que c'est des accompagnements pour des entreprises ou pour des territoires? On attend de voir aussi comment ça va concerner des petites entreprises, parce qu'on a un tissu, nous, dans notre territoire, on a des grandes entreprises, heureusement, mais on a un gros tissu de PME, voire de TPE, parce qu'on a des très petites entreprises, des auto-entrepreneurs qui, eux aussi, peut-être souffert et qui ont sûrement souffert un peu plus de la crise. Et donc, comment ces entreprises-là, qui contribuent à notre fonctionnement quotidien, peuvent évoluer, peuvent peut-être avoir un apport supplémentaire. Alors, on va attendre ce qui sort, mais par le moment de report de charge ou des choses comme ça, on va regarder ce qui est réellement concret, parce que notre tissu va aussi pouvoir se mobiliser pour l'accompagner. Et on regardera, nous, comment on peut jouer notre carte en accompagnement du plan de relance qui a été annoncé par la région, parce que c'est d'abord une compétence régionale sur laquelle on peut intervenir en complément.
Sylvain Robert revient à présent sur la situation lensoise où les commerces ont fermé, mais il y a plus de commerces qui ont ouvert que de fermetures, affirme Sylvain Robert.
Alors on regarde souvent les enseignes qui ferment, on regarde pas les enseignes qui ouvrent. Paradoxalement, on a plus d'enseignes qui ouvrent aujourd'hui sur Lens. Alors il y a un effet de conjoncture, il y a des projets qui ont été reportés de l'avant-crise et qui voient leur concrétisation aujourd'hui. On a aussi des projets qui voient le jour parce que les métiers qui sont nés, en tout cas les activités qui sont nées pendant la crise, aujourd'hui se concrétisent et ont trouvé un marché, donc voilà, se stabilisent. Donc on a aujourd'hui, si on fait le décompte, plus d'enseignes en nombre qui sont créés sur Lens que d'enseignes qui ferment. Et on en a encore qui vont arriver. Vous avez peut-être vu dernièrement, on a un commerce qui est arrivé avec du vrac alimentaire notamment, voire tout le produit, mais sur la thématique zéro déchet. Donc on est vraiment dans cet esprit aussi de nouvelles activités, de nouveaux concepts qui trouvent leur place en centre-ville. Et donc c'est aussi ça, c'est l'évolution du commerce. On a une boutique qui va ouvrir sur des chaussons dans pas longtemps, encore un magasin de beauté. Voilà, on a un renouvellement du commerce dans certaines activités, mais on a aussi des commerces plus traditionnels qui s'implantent aussi en centre-ville. Donc on retrouve cette proximité. Pendant la crise, les gens ont consommé beaucoup sur les marchés, ça continue aussi sur certaines parties. Retrouver peut-être cette proximité, en tout cas cet avantage de consommer en centre-ville, ça se concrétise aussi avec certaines créations d'enseignes et certaines implantations, en tout cas dans le centre-ville de Lens.
Vous êtes toujours dans l'émission Savoir Plus, on parle de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin qui a fait sa rentrée la semaine dernière et qui justement est revenue sur les grands chantiers qui vont arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois, et également sur les aides attribuées aux entreprises, sur le plan de relance économique décidé justement par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin pour aider notamment les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Y a-t-il une progression à présent de la fréquentation dans les commerces lensois? Question qui a été posée donc à Sylvain Robert par rapport également à cette nouvelle offre de commerce qui s'est développée également pendant et après le confinement.
Alors, je ne sais pas si ça se traduit forcément en augmentation de nombre de consommateurs, parce que certains ont revu leur concept. Certains qui sont implantés physiquement ont une boutique, mais aussi font de la vente à distance maintenant. Donc, il y a aussi peut-être des habitudes qui ont changé. En tout cas, en nombre d'enseignes, en nombre d'implantations, il y a une augmentation assez significative sur Lens. Ouais.
Sur l'hôpital, le nouvel hôpital qui devrait voir le jour d'ici 4 ans, on aurait pu se poser la question de savoir s'il y avait effectivement un retard sur le chantier à cause de la crise du Covid-19. Eh bien, pas du tout, affirme Sylvain Robert.
L'hôpital aujourd'hui, on est en train de créer les accès, donc... Fallait d'abord faire les ronds-points, le département l'a fait l'année dernière, on est en train de faire, donc ça c'est l'agglo, le rond-point à la sortie de l'autoroute pour permettre d'accéder au chantier, seulement quand on peut accéder au chantier on pourra commencer la construction. Toute la dépollution pyrotechnique, archéologique a été faite, aujourd'hui on en est vraiment dans la phase où on prépare tout pour que les engins de chantier sur la construction réelle de l'hôpital puissent accéder déjà dès l'année prochaine, fin d'année prochaine.
Autre chantier, ce sont ceux qui se déroulent autour de Bollard, notamment la nouvelle piscine.
Alors autour de Bollard, on présentera la piscine au conseil municipal à la fin du mois, le projet de piscine, voilà. Et derrière, les démarrages travaux sont pour deuxième trimestre 2021. Et après, derrière, il y a le projet privé qui se déroulera aussi là dans la foulée, donc la maison médicale, le cinéma, les logements, les activités aussi plus en termes de restauration. Voilà, on est vraiment dans ce projet qui se développe et qui se continue, je veux dire. C'est malheureux à dire, mais presque normalement.
Autre chantier en cours, ce sont les chantiers de rénovation de logements. Sylvain Robert revient également dessus, sur ces chantiers donc qui touchent cette fois tout le territoire de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin.
Alors aujourd'hui, dans l'ensemble des projets de l'ERBM, chaque commune a lancé une étude urbaine parce que chaque quartier a son propre projet de rénovation et pas uniquement sur les logements mais aussi sur les à côté. Donc si je prends le cas de Lens par exemple, sur la cité 4 qui est concernée, l'étude urbaine est engagée, elle devrait se terminer en fin d'année, donc on va peut-être réajuster parce que les enquêtes de terrain n'ont pas forcément pu être faites comme c'était prévu du mois de mars au mois de mai. Mais en tout cas c'est engagé pour dire de pouvoir là aussi déterminer le programme global et enchaîner sur la réalisation des travaux. Donc on a des réunions avec le bailleur, parce que c'est principalement les bailleurs qui sont concernés sur la rénovation des logements, pour dire de pouvoir là aussi donner du concret. Si on prend le projet en rue sur le 12-14, des livraisons de logements vont avoir lieu. Après, il y a des remises en état, parce que ben voilà, pendant 3 mois, il n'y a pas pu avoir d'entretien des extérieurs, donc il y a des remises en état minimum, et on commence à réaffecter les logements.
Enfin, le pire est-il derrière nous? Question posée à Sylvain Robert par rapport évidemment à la crise du coronavirus.
Ah, sauf... Personne pourra le dire malheureusement, mais en tout cas ça a permis de, on le voit dans des situations de crise comme ça, de renouveler des façons de travailler, de penser peut-être différemment, de libérer des énergies. Et c'est peut-être ce sur quoi il faut regarder, parce que c'est vrai que la situation a été quand même catastrophique au niveau sanitaire. On peut déplorer le nombre de morts toujours trop important. On voit que le virus circule encore, donc à nous de faire là aussi attention au quotidien, mais en même temps de regarder pour redémarrer rapidement et pouvoir espérer revivre normalement rapidement.
Sylvain Robert, le président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, qui répondait à nos questions. Petite pause avec Madonna et Holiday sur Radio Plus. Holiday, c'était Madonna bien sûr sur Radio Plus, 11h passées de 18 minutes. Vous êtes toujours dans l'émission Savoir Plus consacrée à l'actualité du département. Le musée du Louvre-Lens vient de lancer sa nouvelle saison culturelle autour de l'exposition Soleil Noir. Au programme notamment la 5e édition du festival Muse et Piano, mais aussi un nouveau festival de danse ainsi que de nombreux spectacles et rendez-vous autour de cette exposition. Nous avons interviewé Virginie Labroche, responsable de la programmation Arts Vivants et Grands Événements au Louvre-Lens.
Alors Virginie Labroche, une rentrée, une nouvelle saison hein, dans des conditions particulières, mais vous trouvez quand même des solutions pour que justement tous ces moments festifs soient agréables.
Alors effectivement, on a beaucoup travaillé pour que cette rentrée, cette saison autour de l'exposition Soleil Noir soit Corona compatible, comme on dit. On va commencer avec le festival Musée Piano fin septembre, dans le respect du protocole sanitaire. On a fait très attention aux jauges, donc au remplissage de salles, de sorte que tout se passe bien. Et puis on a fait le choix surtout de multiplier les concerts et les lieux dans le musée. Donc c'est près de 26 propositions, des récitals, des masterclass, des concerts surprises, un petit peu partout dans le musée, dans des endroits très secrets d'ailleurs, où d'ailleurs d'habitude le public ne va pas. On va emmener comme ça les gens dans l'antre du musée. Et oui, tout ça bien sûr très très surveillé, très safe comme on dit aujourd'hui.
Alors Muse et Piano va se tenir du 25 au 27 septembre, une édition anniversaire hein, puisque le festival fête ses 5 ans. Quel regard vous portez sur les éditions précédentes ?
Alors c'est un projet assez incroyable Musée Piano, parce qu'effectivement l'idée c'était de demander à des grands pianistes internationaux de s'inspirer du musée. Et en fait, dès la première édition, avec Ronald Bruno Boulmier, le directeur artistique, c'était assez nouveau, on ne savait pas du tout comment ça allait prendre. Et dès le début, on a eu un retour incroyable et des pianistes qui participaient à cette édition, et du public surtout, qui a tout de suite été présent. On est complet ou quasi complet chaque année sur tous les concerts. Et c'est vraiment un moment assez incroyable. Moi, à la fois, ça fait, c'est la 5e édition, ça fait 5 ans, et chaque année, c'est un tourbillon et un plaisir assez incroyable de renouveler cette expérience avec des pianistes incroyables, toujours des programmes aussi très adaptés. C'est à la fois de la musique classique extrêmement exigeante et en même temps très grand public. Tout le monde s'y retrouve. Il y a des tubes de la musique classique, vraiment, je le dis, parce que j'y tiens aussi. C'est pour tous les publics. Voilà. On a cette année un concert pour les enfants à partir de 2 ans. On fait des scolaires. On a des grands récitals le soir. Et c'est vraiment pour tous. L'ambiance est dingue et les pianistes veulent revenir. La preuve, là, sur les 11 pianistes, il y en a déjà quelques-uns qui sont venus et qui reviennent parce que c'est 5 ans et qu'ils veulent être là pour l'anniversaire.
Alors parmi les tubes justement de la musique classique, il y a ce marathon de la sonate au clair de lune. Expliquez-nous ça.
Alors l'idée c'était on est sur le 250e anniversaire de Beethoven cette année, et puis il se trouve que dans l'exposition Soleil Noir, on a ce grand tableau dans la première salle, un tableau de Benjamin Constant représentant Beethoven et en train d'écrire cette sonate au clair de lune. Et donc on a demandé au pianiste de nous la jouer. Donc c'est un morceau qui dure une vingtaine de minutes, donc il sera joué une dizaine de fois sur le week-end par des pianistes différents. Donc c'est aussi l'occasion de l'écouter plusieurs fois et de voir l'interprétation, parce qu'on a l'impression que c'est toujours le même morceau, mais absolument pas. L'interprète joue beaucoup sur l'interprétation du morceau justement. Donc voilà, ça se tiendra à la médiathèque, c'est gratuit, il faut arriver un peu en avance parce que les places sont limitées, et puis on fera rentrer les premiers arrivés. Je pense que ça va être assez incroyable ce marathon. Ouais.
Parlez-nous aussi de la soirée d'ouverture hein, de ce festival.
Alors je vais vous en parler, en même temps je ne veux pas trop en dire parce que j'ai envie de garder des surprises. On sera dans 2 espaces du musée. L'idée c'est que quand vous allez arriver, on va vous donner un petit bracelet et puis vous allez aller soit d'un côté soit de l'autre, je ne donne pas encore tous les détails, écouter soit en première partie Anne Kefelek, cette grande pianiste qui est un peu la marraine de notre festival, elle était là sur la première édition. Et d'un côté Anne Kefelek, et puis de l'autre côté, la deuxième partie du public ira écouter Gaspard Dehaene, qui est le fils d'Anne Kefelek d'ailleurs, et qui est aussi un très très grand pianiste. Donc voilà, il y aura ces 2 espaces, et puis après on fait un entracte, et on échange, en fait. Donc vous allez pouvoir, dans tous les cas, écouter et Anne Kefelec et Gaspard Dehaene, mais chacun son tour.
Alors parlez-nous également des autres artistes présents dans ce festival.
Alors, donc on aura également le grand récital de Luis Fernando Pérez, qui est un grand pianiste espagnol. Là, on est vraiment autour d'un programme autour de l'Espagne, autour de la noirceur de la musique espagnole. Il s'est aussi inspiré de l'exposition. Et puis, le dimanche, on a décidé de rassembler un peu tous ces jeunes pianistes que sont Céline Mazary, qui était nommée aux Victoires de la musique classique, Florian Noack, Clément Lefebvre, qui est un peu le régional de l'État, puisqu'il est originaire de Béthune, et maintenant il mène une carrière internationale. Célimène Daudet, une jeune pianiste franco-haïtienne, tant qu'il vit en cours, voilà, certains sont déjà venus. Alors l'idée, c'est qu'on va vraiment faire la fête avec eux le dimanche après-midi. Ça va être vraiment un festival dans le festival. Là, ils vont jouer tous à la scène autour de ce même piano. Ils vont jouer à quatre mains, ils vont jouer chacun leur tour. Ça sera, à mon avis, explosif.
Et puis également, hein, hormis donc ce concert dont le lieu est tenu secret, il y aura également des concerts surprises dans la Galerie du Temps.
Oui, tout à fait. On aura un piano dans la Galerie du Temps et donc on surprendra les visiteurs comme on aime bien le faire. Donc là, ils ne seront pas du tout annoncés. Ça sera vraiment... Il faudra passer un peu de temps dans la Galerie du Temps et puis peut-être d'un coup, vous allez entendre une œuvre de Chopin, de Ravel. Vous serez attiré par le piano et vous pourrez écouter quelques minutes Anne Kefelec ou Florian Noack en train de jouer un morceau comme ça.
Alors on se parle, il reste encore quelques places ?
Oui, il reste des places, à ce jour il reste des places, alors ça se remplit bien, certains concerts se remplissent rapidement, donc ne tardez pas à prendre vos billets, mais il reste de la place, et puis moi j'ai envie de dire, même le jour même, n'hésitez pas à passer un petit coup de fil ou à venir si vous n'êtes pas trop loin, parce qu'on arrive, quasiment toujours à faire rentrer tout le monde, toujours.
Alors Virginie Laroche, second festival, La Beauté du Geste, c'est la première édition de ce festival de danse que vous organisez avec plusieurs partenaires, Culture Commune, le 99 bis, la MAC de Salomine également. Comment est venue l'idée de ce festival ?
Alors c'est un projet qu'on avait déjà discuté ici en interne. On avait envie de mettre en avant la danse au musée parce que c'est vraiment un art qui se marie très très bien avec l'histoire de l'art. D'ailleurs, les chorégraphes, les danseurs qui viennent au musée sont toujours très inspirés par la statuaire, notamment toutes les statues grecques, romaines. Il y a vraiment cet intérêt fort. Et puis nous, on programme des spectacles de danse depuis l'ouverture du musée. Et en discutant avec mes collègues du territoire, avec le département aussi du Pas-de-Calais, on a mis en place cette première édition de ce festival La Beauté du Geste qui devait se tenir du coup fin mars et qu'on a reporté à l'automne, donc avec un spectacle de Sylvain Groux qu'il a créé pendant le confinement, puisqu'on devait accueillir un autre spectacle qui malheureusement n'a pas pu être répété. Donc c'est un spectacle qui s'appelle 4 mètres carrés. Chaque danseur, les 10 danseurs sont chacun dans une sorte de cube en cellophane qui fait 4 mètres carrés, qui est en fait la distance nécessaire avec les distanciations physiques liées à la pandémie. Il faut 4 mètres carrés pour les danseurs, donc là ils sont seuls chacun. Et puis nous, spectateurs, on déambule entre ces cubes, entre les danseurs, à notre rythme. Vous pouvez vous arrêter un peu plus longtemps devant un danseur, vous pouvez continuer. En tout, la performance dure 3 heures, donc c'est quand même extrêmement physique pour ces jeunes danseurs. Et voilà, donc il y a ce spectacle-là. Le dimanche, on a La Fuite de Lionel Beck, qui est un jeune danseur aussi, chorégraphe. C'est sa première chorégraphie signée. Et là, ça s'appelle La Fuite. C'est vraiment autour de à la fois du mythe d'Actéon et Diane. Vous savez, Diane qui transforme Actéon en cerf parce qu'elle le surprend en train de la regarder et prendre son bain. Et aussi du coup de cette transformation du corps, le corps qui vieillit, le corps du danseur, mais aussi le corps des personnes âgées qui se délitent. Voilà, c'est vraiment un très très beau spectacle. Et puis après, à Culture Commune, il y aura un bal aussi le samedi soir, un bal participatif. Et à la MAC de Salomine, il y a aussi un autre spectacle, People What People, le mardi soir.
Alors, on revient également autour des spectacles prévus autour de l'exposition Soleil Noir. Hein. Il y a eu quelques changements, hein, par exemple la déprogrammation de tout ce qui était lié au Hellfest. Hein.
Oui, effectivement, ça c'est vraiment... bon, voilà, ça fait partie des regrets, mais j'espère qu'on pourra à nouveau accueillir le Hellfest dans les années à venir. On a dû faire une croix sur cette date et on n'a pas pu la reporter, ce qui n'est pas le cas de la plupart des spectacles. On a quasiment pu tout reporter sur cette saison Soleil Noir. Et puis on a même rajouté quelques spectacles qui étaient... voilà, qui avait été déjà positionné dans le calendrier. Donc là, il y aura plusieurs types de propositions. Il y a des expériences assez immersives. Il y a un banquet dans le noir avec le chef Jean-Claude Janson, où là, vous allez pouvoir vous bander les yeux et goûter des produits qu'il aura concoctés, avec Lucie Boissonneau, qui est artiste, comédienne, qui lira des textes, il y aura de la musique, etc. C'est vraiment une expérience. Une autre expérience, dans le prolongement de l'exposition, un spectacle très, très particulier, où vous rentrez dans cette salle toute noire, et puis il y a des faisceaux lumineux, ça s'appelle Deep Are the Woods, ça fait écho aux lumières dans la forêt, vous voyez, quand vous baladez dans la forêt, que vous avez ces lumières qui traversent les arbres, c'est vraiment très très beau, c'est une expérience assez incroyable, vous êtes assis, seul ou à plusieurs, et puis il n'y a pas d'interprète à part la lumière. Donc ça, c'est un peu tout le côté immersif, expérientiel qu'on a voulu faire autour de cette exposition, il y en a pas mal en médiation aussi dans les visites. Et ensuite, on aura des choses un peu plus classiques. On fait une journée autour de Pierre Soulages avec une conférence et une lecture musicale avec Michel Villermoz de la Comédie Française. On a aussi du cinéma. On aura un ciné-concert autour d'un film de 1913, Germinal. Un premier film autour du Germinal de Zola qui a été filmé en partie dans la région et qui n'a jamais été diffusé à ce jour dans les cinémas. Donc ça, c'est vraiment en version ciné-concert. Et puis du classique, du théâtre plus classique, La Nuit des Rois de Shakespeare, d'autres Princes et Princesses, ce fabuleux film pour les enfants, voilà, du cinéma, des conférences, beaucoup beaucoup de choses à découvrir.
Quand vous dites plus classique au niveau de La Nuit des Rois, c'est quand même quelque chose d'assez décalé, hein.
Alors effectivement, quand je dis classique, c'est juste le Shakespeare qui est finalement auteur classique, puisque c'est une jeune troupe, jeune compagnie de théâtre qui s'est bien réapproprié le texte. Alors c'est exactement le texte de Shakespeare, mais dans la mise en scène, on est vraiment dans quelque chose de très 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 contemporain et très drôle surtout. Ça commence avec une chanson de Queen, ils ont des costumes assez incroyables, et puis en même temps ça tient sur le fil avec très peu de décors, quasiment pas de décors, mais c'est très musical et plein d'énergie, c'est vraiment très drôle.
Et une soirée électro le 18 décembre avec le retour de Jeff Mills.
Oui, alors on est très très heureux de l'accueillir à nouveau, donc c'est le vendredi soir des vacances de Noël, où là on proposera une soirée électro avec deux artistes, donc Jeff Mills, vous l'avez dit, le maître, le pionnier de la techno, voilà, qui a commencé sa carrière, je pense, dans les années 80 à Détroit. Un grand, grand artiste, un grand DJ. Moi, les gens qui ne connaissent pas, je leur dis, non, mais voilà, c'est l'équivalent de Madonna pour la pop, quoi. Jeff Mills, c'est un dieu de la musique électro. Et puis, un jeune, pour le coup, qui monte aussi en puissance, To Imago, qui est un jeune issu du territoire, hein, dont la famille était issue d'une famille de mineurs. Et puis, il a créé son premier album, là, son premier EP, avec uniquement des morceaux qui font référence au noir, à la couleur noire et à la mine, justement, puisque l'album s'appelle Nord Noir.
Et puis, on va parler aussi, pour terminer, des fêtes de la Sainte-Barbe, hein,
Alors chaque année, effectivement, on s'associe avec la communauté d'agglomération Lanciévin, avec l'Office de tourisme, avec Culture Commune et beaucoup d'autres partenaires du territoire pour les fêtes de la Sainte-Barbe, fêter cette Barbara dignement chaque année. Nous, on aura un bal comme l'an passé, alors un peu différent cette année puisque on avait pris l'habitude de faire des bals chorégraphiques. Là, on revient vraiment à un bal plus populaire dans la tradition de la Sainte-Barbe, c'est-à-dire uniquement un orchestre qui sera celui de la compagnie du Tirelaine. Et donc, vous pourrez venir boire un coup, vous poser un peu comme un dimanche après-midi où on fait un bal et on peut comme ça se poser autour des tables et regarder les autres danser aussi si on n'a pas envie de danser, mais bon, le but c'est de danser, hein. Et puis en sortant, il fera un peu nuit normalement puisqu'on sera en décembre, il y aura une installation dans le parc de feu, en fait un jardin d'hiver par la compagnie Carabosse, qui est une compagnie qui est déjà venue sur le territoire à l'ouverture du musée pour ceux qui étaient là ce soir-là et qui sont vraiment mais incroyables, des spécialistes de... Alors, c'est pas de la pyrotechnie, c'est pas du feu d'artifice, c'est vraiment juste du feu, mais c'est absolument magnifique ce qu'ils font. Donc, ils vont totalement revisiter le parc, se l'approprier. Et là, on va en prendre plein les yeux.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
À l'instant, c'était Virginie Labroche, la responsable de la programmation du Louvre-Lens, du musée du Louvre-Lens, hein, responsable de la programmation, bien sûr, au niveau des spectacles notamment. Et je vous rappelle hein, la tenue hein, du festival Muse et Piano, hein, notamment la cinquième édition de ce festival à la fin du mois. Et justement, puisqu'on a évoqué Beethoven dans cette interview, on va l'écouter, Ludwig van Beethoven, avec la sonate pour piano numéro 8 en ut mineur, plus connue sous le nom de Pathétique. Thank you. Ludwig van Beethoven, dont on fête le 250e anniversaire, lors du festival Muse et Piano qui aura lieu au musée du Louvre-Lens avec bien d'autres spectacles autour de l'exposition Soleil Noir. Toutes les infos sont à retrouver sur le site internet du musée du Louvre-Lens, c'est le www.louvrelens.fr. À présent, on va s'intéresser à Jardin en Seine. Jardin en Seine, c'est un festival qui a lieu dans toute la région Hauts-de-France jusqu'au 22 septembre, il me semble. Et nous allons plus particulièrement nous intéresser à ce que fait l'association Porte-Mine du côté de Lens et de Losanguel par rapport à ce festival. Un reportage signé Lucie Leclerc.
Jardin en Seine, un festival étonnant qu'organisent les Hauts-de-France. Du 4 au 27 septembre, préparez-vous à découvrir des spectacles et des événements dans les plus beaux lieux naturels de notre région. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. En septembre, la culture s'invite dans les jardins et les lieux en plein air. Porte-Mine fait partie de ces associations qui organisent certains de ces spectacles. Du 18 au 20 septembre, ils déroulent leur programmation entre Lens et Losanguel. Une programmation qui poursuit leur objectif à long terme, recréer du lien social, comme l'explique Suzanne Leton, coordinatrice culture et artistique de l'association.
L'association Porte-Mine existe depuis 4 ans. Elle est à la maison des projets depuis un an. Du coup, et en fait, avant, c'était une asso qui était dans la maison d'ingénieurs à Losanguel, donc la maison est à travaux en ce moment, et elle va bientôt réouvrir. Et donc, c'est une association qui fait de l'action culturelle, des activités, qui crée du lien social, qui recrée du lien social, et qui implique beaucoup les habitants du territoire, et qui met en œuvre des projets avec eux.
Ok, par recréer du lien social, qu'est-ce que vous entendez exactement ?
Alors, c'est vrai que, par exemple, dans le quartier du 12-14, où est la maison d'ingénieurs et donc où a commencé, où est née Porte-Mine, c'est des quartiers prioritaires. Et du coup, c'est vrai que c'est des quartiers où les gens sont assez isolés. Et du coup, l'association essaie de proposer des activités pour impliquer les gens dans la vie de quartier, pour les faire se rencontrer et pour valoriser leur savoir-faire et provoquer des échanges en fait entre les gens.
La participation de Porte-Mine à Jardin en Seine est aussi l'occasion pour eux de fêter leur anniversaire car le mois de septembre marquera leurs 4 ans. Mais surtout cette programmation à grande échelle leur apporte une visibilité qu'ils auraient eu du mal à avoir autrement. Pour leurs différents événements carte blanche, seule la règle des espaces en plein air était à respecter selon Suzanne Letombe.
On était complètement libre, on a fait ce qu'on voulait. On a pu faire ce qu'on voulait. Alors le 18 septembre, donc le vendredi, la programmation se fera à la maison d'ingénieurs, donc qui est encore en travaux actuellement, mais comme les habitants du territoire nous demandent beaucoup quand Porte-Mine va revenir à la maison d'ingénieurs, parce que ça fait un moment qu'elle est en travaux, on s'était dit que ça pouvait être intéressant et amusant de quand même faire un événement à la maison d'ingénieurs, même si elle est encore en travaux. Donc en fait, il va y avoir des visites détournées du chantier de la maison d'ingénieurs avec un collectif d'artistes, donc le collectif Cri de l'Aube. Et donc en fait, ils vont nous faire des petites visites théâtrales de la maison d'ingénieurs. Et ensuite, on va faire un concert dans le jardin avec un groupe qui s'appelle La Carlingue. Donc c'est un groupe qui joue dans une caravane ouverte. Et donc voilà, ça va animer le jardin et la maison d'ingénieurs avant sa réouverture. Et le samedi et le dimanche, on retourne à la maison des projets, donc à Lens. Et en fait, l'événement va prendre la forme d'un mini festival d'art de rue. Parce que le samedi, entre 16h et 23h, il y aura des spectacles de cirque, de théâtre, de musique. Il y a deux concerts. Et le dimanche, de 15h à 19h30, où pareil, il y a des spectacles et des concerts.
Comment est-ce que vous les avez choisis, vos artistes ? C'est des artistes avec qui vous aviez l'habitude de travailler ou c'est comment ça s'est fait ?
Alors, il y a certains artistes qu'on connaissait déjà, qu'on avait déjà reçus, et d'autres, pas du tout, mais c'est l'occasion de se rencontrer aussi. Les événements, c'est aussi l'occasion de se rencontrer entre membres de l'association et artistes du territoire ou non. Après, c'est vrai que en général, on essaie de prendre des artistes qui sont dans la région. C'est aussi l'occasion de valoriser le travail d'artistes locaux. parce que il y a beaucoup de collectifs, de compagnies dans la région qui sont très, très intéressantes et qu'il faut valoriser.
L'esprit, alors la ligne rouge de Jardin en Seine, c'est des manifestations culturelles, ou enfin juste des ateliers qui prennent place dans les lieux publics et notamment les espaces verts, ouais, en plein air. Qu'est-ce que vous, quand ça vous inspire ça, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous avez essayé de créer votre programmation? Alors j'imagine que vous l'avez tournée autour de ça. Comment vous l'avez utilisée?
Alors, le fait de faire un événement en extérieur et notamment dans un jardin, ça donne envie d'aménager l'espace grâce à l'action des artistes, par exemple, parce que c'est pareil, à la Maison des Projets, on a un manège qui va venir, c'est un spectacle sur un manège. Et le fait de faire l'événement à l'extérieur, eh ben, ça donne envie d'avoir des spectacles assez visuels aussi, qui donnent un décor et un cadre un peu inédit. En fait, on est moins contraint que quand c'est à l'intérieur, finalement. Et ça permet aussi de valoriser l'espace extérieur de chaque lieu. Donc à la Maison d'Ingénieur, on a un très beau jardin, donc c'est l'occasion de le valoriser aussi. Et à la Maison des Projets, on a un beau jardin aussi, et surtout on a un amphithéâtre extérieur qu'on est toujours heureux de pouvoir utiliser, quoi.
Dans votre programmation, vous le dites, hein, vous-même, vous avez beaucoup de formats, des formats très variés, donc des balades, du théâtre, des manèges, des concerts. Ouais. C'est une volonté, ça ?
Oui, totalement. C'est pour diversifier les propositions et être accessible à tout le monde, en fait. On a des spectacles qui sont aussi bien pour les enfants que pour les parents. On a des concerts de groupes un peu connus sur le territoire, ou pas du tout, mais ce qui permet aussi de découvrir des nouvelles choses. On a du cirque, du théâtre. On essaie vraiment d'avoir une palette assez large de propositions pour plaire à tout le monde, en fait.
Mais les jardins en Seine pour Portemine, c'est aussi des rendez-vous forts pour l'association. Parmi eux, une balade marquante au milieu des bois et un collectif qui n'en est pas à sa première collaboration avec Portemine.
Je pense particulièrement à un spectacle qui... alors ça sera la deuxième fois qu'il jouera... Il vient juste d'être créé, ce spectacle. En fait, c'est plus une balade qu'un spectacle, ça s'appelle Bila. C'est le bureau d'interprétation de la langue des arbres. Alors c'est la compagnie La Récréation qui est basée à Fléchin qui a créé ce spectacle. Et en fait c'est une sorte de laboratoire expérimental où les spectateurs ont un casque sur les oreilles. Et en fait c'est un casque où ils vont pouvoir entendre les arbres parler et communiquer entre eux. Donc c'est une balade assez intime, assez drôle, et qui est assez contemplative. Et en fait, cette balade va se faire dans le petit bois juste à côté de la Maison des Projets.
Est-ce que vous pouvez un peu me parler des artistes que vous avez invités? Est-ce qu'il y en a dont vous aimeriez un peu parler là tout de suite?
Eh bien, par exemple, j'ai parlé du collectif CRI de l'Aube qui fait les visites détournées à la Maison d'Ingénieur le samedi 18 septembre. Mais le collectif a d'autres projets aussi, a d'autres spectacles. Là, les visites détournées, c'est un peu une création sur commande, quoi.
Spécialement pour la Maison d'Ingénieurs, c'est ça ?
C'est ça. On a déjà travaillé avec eux au mois de juin dernier. On a fait des résidences de rue, en fait, et c'est pareil, on les a appelés en disant « on aimerait bien faire des spectacles dans la rue, un peu participatifs, où les gens peuvent donner des anecdotes de vie, les habitants de la rue dans laquelle on va, quoi. » Et donc, ils nous avaient déjà fait une création un peu sur mesure, un peu sur commande, quoi. Et donc là, on refait ça avec eux sous une autre forme, finalement, parce que la création sur commande, c'est pour rendre la visite du chantier de la Maison d'Ingénieur un peu drôle, théâtrale et tout ça, quoi. Ou même un peu effrayante, on sait pas trop, on verra bien comment ça se passe. Et là, en fait, ils ont un spectacle qui s'appelle Les Déchronologues. En fait, c'est un équipage de voyageurs du temps qui viennent raconter des histoires et chanter des chansons. Et en fait, c'est pas possible de pas les remarquer parce qu'ils arrivent à bord d'un aéroplane et ils viennent pour raconter tout ce qu'ils ont pu voir dans tous les temps différents qu'ils ont visités.
Mais organiser des spectacles dehors, cela pose un certain nombre de problèmes et d'incertitudes renforcés par le contexte sanitaire actuel. Entre météo et Covid-19, il est plus difficile que les autres années de composer selon Suzanne Letombe, et s'il pleuvait ce jour-là.
D'habitude, on a toujours un lieu de repli, en fait, mais là, avec les contraintes liées au Covid, c'est un peu compliqué, parce que on pourra pas accueillir tout le monde à l'intérieur, quoi, donc on croise les doigts.
Justement, le Covid, comment vous l'avez pris en compte là dans l'organisation de vos spectacles, de vos balades?
Alors, par exemple, pour la balade, pour le spectacle Bila, c'est sur réservation en fait, parce que on veut pas qu'il y ait trop de monde forcément. Et après, on va limiter l'accès en fait, même si c'est en extérieur dans un espace public, on va être obligé de limiter l'accès parce que on peut pas avoir trop de monde. On veut pas prendre de risques et puis on va faire en sorte que tout le monde soit masqué pour assister au spectacle aussi.
Mais Portomine, si elle organise plusieurs manifestations culturelles le week-end du 18 septembre, ne se limite pas au jardin en Seine. Toute l'année, l'association organise des ateliers variés pour réunir les populations du territoire et on peut se tenir informé de ces événements sur Internet.
Pour nous retrouver, on a un Facebook Portomine et un Facebook Maison des Projets. Et la Maison des Projets réouvre ses portes mercredi prochain, le 26. Et donc, en fait, il faut savoir qu'à la Maison des Projets, on est associé au Book Café. Et donc, on peut faire de la petite restauration. On a un café citoyen, en fait. Et donc, le café citoyen réouvre mercredi midi, jeudi soir et vendredi midi. Et on fait une soirée retour de vacances et souvenirs de vacances jeudi soir, donc le 27. Et donc, c'est notre premier événement de reprise.
Quant aux jardins en Seine, ils ont lieu sur toute la région des Hauts-de-France du 4 au 27 septembre, 120 rendez-vous sur les 4 week-ends de septembre. La programmation complète est à retrouver sur le site des Hauts-de-France. Ce reportage a été réalisé par Lucie Leclerc.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Ma station, ma région, ma passion, Radio Plus.
Voilà, c'est la fin de cette émission Savoir Plus. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Escapade Folklorique. À 13h, vous retrouverez Mélodie d'Harmonica, nouveau numéro. À 14h, nouveau numéro également de la Dolce Vita. 15h, ce sera Tous en Scène avec trois invités que vous découvrirez, notamment Yanis Taïeb, Chris Descourtil et un dernier invité dont j'ai omis le nom, pardonnez-moi, mais en tous les cas, voilà, ce sera tout à l'heure entre 15h et 17h avec la dame Brune, 17h localement, plus 18h le retour de Génération Country avec DJ Voyou, et puis à 20h le retour de Turbo Rock, toute l'équipe au complet, Gilles, Bruno, Jean-Claude, qui seront présents donc ce soir pour Turbo Rock. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Plus. Dans quelques instants, le Flash Info National.
Radio Plus, la radio de toutes les générations. Radio Plus, la radio pas comme les autres.
Radio Plus, Radio Plus, tous les tubes d'hier à aujourd'hui sur une seule radio.
ses mains.